Pascal qui est en vacances, c'est Mathias qui remplace Pascal, qui revient de son remplacement, c'est lundi ou mardi prochain.
Fait que ce serait c'est mercredi.
Voilà. Mercredi. Donc, puis tu travailles avec Pascal mercredi, exactement. Mon chanceux.
Yes. Hein?
Puis là, moi, elle revient de vacances, puis là, moi, je pars une journée de congé.
Fait qu'elle a encore une autre journée de vacances, ça veut dire.
Elle va être heureuse. Hey, François Legault, tantôt, qui a pris parole parce qu'on faisait l'annonce d'une candidature dans Arthabasca. Un certain Kevin, un certain comptable, qui est une solide candidature, soit dit en passant, qui va faire face à un Éric Duhaime qui semble être en avance avec son collègue du Parti québécois. Donc, c'est une lutte à deux jusqu'à maintenant dans Arthabasca. Est-ce que ce sera une lutte à trois dans les prochaines semaines? Les sondages nous le diront. Mais ce que François Legault a mentionné pendant la conférence de presse, c'est qu'il y aura remaniement ministériel dans les prochaines semaines et ça se passerait à l'automne.
Est-ce que Bernard Drinville resterait ministre de l'Éducation?
C'est une bonne question. Bernard Drinville qui est un peu dans l'eau chaude là, avec les fameuses coupures budgétaires dans le merveilleux monde de l'éducation. Les profs la trouvent vraiment pas drôle. Les parents des enfants non plus qui la trouvent pas drôle. Mais François Legault s'est prononcé à ce sujet. Et lui, ce qu'il mentionne concernant les coupures, c'est qu'il rejette en bloc les dénonciations des compressions faites dans le réseau scolaire. Il qualifie même les dénonciations d'ésotérique. Obscure. Les dénonciations sont obscures. Il dit, au moment où des directions d'école implorent Québec actuellement de reculer sur des potentielles coupes dévastatrices, j'ai parlé à des professeurs qui m'ont raconté que pendant les réunions, quand on leur disait, ben là, voici, ça va être quoi pour l'an prochain, il y en a qui ont quitté la salle en pleurant. Parce qu'ils sont déjà à bout de ressources. Puis là, ils se font dire que leurs élèves qui essaient d'aider n'auront pas accès à des ressources professionnelles, l'orthopédagogie, entre autres. Donc, on va continuer de jaser de ça avec nos professeurs. J'en ai un au bout du fil. C'est ton ancien prof. C'est Jimmy Grenier, qui est professeur d'histoire à l'école Pointe-Lévis. Salut, Jimmy. Merci d'être là.
Ben, ça fait plaisir. Merci. Bonjour.
Professeur, depuis combien d'années?
J'ose pas dire le chiffre, au-dessus de 20 ans, on va dire comme ça.
Au-dessus de 20 ans, et cette année, quand vous avez appris qu'il allait y avoir des coupures dans le merveilleux monde de l'éducation, comment vous avez pris ça, vous, personnellement, professionnellement, puis les collègues ont pris ça comment?
Ben, dans l'ensemble, je pense que c'est généralisé, là. C'est peut-être ésotérique aux yeux de François Legault, mais nous, là, c'est pas dans le cyberespace ou dans la conquête spatiale qu'on est, là. On est vraiment sur le plancher des vaches, puis on est avec des élèves à tous les jours, puis d'entendre ce qu'on a entendu en toute fin d'année scolaire, ça nous a, on va le dire, scié les bras. On est vraiment, là, consternés de voir à quel point ces coupures-là sont arrivées à un moment de l'année, là, où est-ce qu'on... On est supposé être positif, hein? On n'espère pas des cadeaux, mais on espère au moins un petit merci, quelque chose du genre, mais de se faire dire, ben finalement, l'année prochaine, on va couper vos budgets, je pense, aux navigateurs de 25 millions. Ça, puis un mal de dents, là, on n'avait pas besoin de ça. Là.
Non. Jimmy, professionnellement, qu'est-ce que ça va occasionner chez toi avec tes élèves? Puis au niveau de l'école aussi, qu'est-ce que ça va occasionner, ces coupures-là?
Ben, je vais essayer de pas personnaliser la chose parce que moi, j'enseigne dans un programme particulier. Donc, j'enseigne dans un programme hors langue sport, ce qui est, je vous dirais, honnêtement, un peu moins touché. Ce qui est touché davantage, c'est les jeunes qui sont plus vulnérables. Puis, l'école, je connais pas votre âge, hein, mais on a un bon petit bagage de vécu, là. Puis, ce qui se passe dans les écoles, puis ce qu'on a vécu quand nous, on était étudiants ou quand on était élèves, c'est vraiment plus la même chose. Les élèves, là, ils sont de plus en plus avec des besoins particuliers. On a des réalités qui sont nettement différentes avec des bâtiments. Je prends juste à l'école où est-ce que je suis présentement, là. On manque de locaux, on manque d'espace, de lieux pour que les élèves puissent socialiser. On manque de locaux pour faire des récupérations. On a des besoins aussi au niveau de la francisation qui ont été coupés. On a vu en plus l'automne dernier tout ce qui s'est passé, la saga avec les cours de francisation qui ont été mis de côté. On a des élèves qui arrivent d'ailleurs, qui vivent dans des situations familiales, pas toujours faciles, on va se le dire, là. On pense souvent aux gens qui arrivent, puis là, on essaie de leur faire porter le fardeau, là, hein, ils coûtent cher, puis ainsi de suite, mais au final, pour nous, là, quand on est devant eux, là, un élève, c'est un élève qui a des besoins, qu'il soit né ici ou qu'il soit né ailleurs. Ces élèves-là ont des besoins, puis on est vraiment consternés de voir à quel point on sent que le gouvernement semble minimiser la chose en disant, ben on a... Hein, les chiffres sont là, puis on a vu la publication de M. Drinville. Hein, les chiffres sont là, on investit davantage. C'est vrai qu'on investit davantage, mais toutes les écoles et tous les enseignants vont pouvoir vous le dire, les besoins sont nettement plus grands qu'ils étaient autrefois. Fait que moi, à titre personnel, ça me touche pas tant que ça, parce que, on le dit, moi, j'ai un job, là, je suis un enseignant d'expérience, ça fait longtemps que je suis là. Moi, ils me couperont pas mon poste, là. Mais les jeunes que je côtoie tous les jours, ben, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être qu'ils n'auront pas un orthopédagogue. Peut-être que aussi, je pense aux parents, là. Je pense à un jeune qui va faire, par exemple, des activités parascolaires. Mettons, il joue au basketball. Là, lui, ce qui le motive à l'école, là, c'est pas le cours d'histoire à Jimmy, là. Ce qui le motive à l'école, là, c'est de faire du basketball en parascolaire. Ben, ce jeune-là, ben, il va probablement devoir payer plus cher parce qu'il y avait des montants qui étaient alloués pour le parascolaire, qui avaient été augmentés dans les dernières années par le ministère, et ainsi de suite. Et là, l'idée derrière ça, c'est de les motiver. Mais là, l'année prochaine, ben, la facture va être refilée probablement aux parents. Fait que les auditeurs, présentement, qui nous entendent, là, ils le conçoivent peut-être pas encore tout à fait, mais ça va les toucher directement. Parce que si le jeune, il fait du basketball, puis on dit, bon, ben, on augmente la facture, je dis un chiffre au hasard, il coûte 150$ cette année le cours. Peut-être que l'année prochaine, ça va être 400-500, mais s'il fait du basketball puis du volleyball, faites vos calculs, si vous avez deux enfants, ça va coûter pas mal plus cher.
Là, vous l'avez mentionné, Jimmy, on va couper dans les services offerts aux élèves. Est-ce qu'on va couper dans l'aide alimentaire?
Ben, c'est ce qu'on a entendu en tous les cas. Moi, évidemment, je suis pas gestionnaire, je suis pas comptable, mais les directions nous ont rencontrés pour nous donner une espèce de portrait d'ensemble. Puis oui, l'aide alimentaire, c'est un des postes budgétaires que le ministère a décidé de couper. Et là, je ne veux pas dire de bêtises, comme je vous dis, je ne suis pas expert dans les chiffres, mais de mémoire, c'était de moitié.
On va couper dans l'aide alimentaire. On est rendu là. Parmi les moins bien nantis de notre société, on envoie les enfants de ces gens-là à l'école. On les a toujours aidés. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, Jimmy, il y en a qui nous donnaient des berlingots de lait. De temps en temps, on avait des berlingots de lait au chocolat. Ça, c'était une bonne journée. Puis, il y avait de l'aide alimentaire pour ceux qui n'avaient pas de lunch sur l'heure du midi. C'était des services qui étaient offerts. Là, vous me dites que ces enfants-là, ils vont se présenter à l'école en pensant qu'ils ont peut-être quelque chose pour eux, puis il n'y aura rien, tout simplement?
Ben, est-ce qu'il n'y aura rien? Là, évidemment, c'est des décisions qui vont être prises par les écoles. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien. Puis, c'est sûr qu'on va se le dire. T'sais, les gestionnaires avec qui on travaille, le directeur avec qui on est, ils savent bien, là, on va faire des choix qui vont être les plus... ceux qui auront le moins de dommages vis-à-vis des élèves. Donc, les élèves auront pu, peut-être pas le même niveau d'auteur de service qu'il y a présentement, mais je donne un exemple. T'sais, souvent, là, les jeunes qui reçoivent de l'aide alimentaire, on essaie de pas les stigmatiser. T'sais, on veut pas mettre un gros néon alentour de lui et dire, hey, toi, t'as de la misère, toi, tu reçois des services. Fait que souvent, on prend d'autres stratégies. Je donne un exemple. On pourrait, à une pause, à un moment donné, on avait donné des pommes. Hein, on achetait des pommes, donc on donnait à l'ensemble des élèves. Ben, c'est des petits gestes comme ça qui rendent l'école intéressante, mais là, le budget, s'il est amputé, est-ce qu'on va donner des pommes? Je pense plus. Hein, c'est parce que, justement, on va prioriser. Peut-être, là, en voyant l'enveloppe qui a été coupée d'environ la moitié, ben, on va prioriser pour le mettre à l'endroit où est-ce que les besoins sont les plus criants, mais on va mettre de côté d'autres besoins aussi dans ce temps-là. Fait que l'aide alimentaire, le parascolaire, fait que si M. Drainville dit qu'on ne touchera pas aux services aux élèves, c'est pas moi qui mange les pommes, là. C'est pas moi qui reçois des services d'orthopédagogie, c'est les élèves qu'on a devant nous, là.
Moi, ce que j'aime, c'est que là, vous prenez ça à cœur, vous et vos collègues, puis vous commencez à faire des moyens de pression. Puis quand vous faites des moyens de pression pour les élèves, moi, vous allez toujours être de mon bord, là. C'est 750 membres du personnel qui demandent à leur député, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, de reconsidérer les restrictions budgétaires récemment annoncées en éducation. Vous avez parti une pétition. C'est quoi cette pétition-là? Puis, va-t-il y avoir d'autres moyens de pression pour nos enfants?
Bien, la pétition en question, moi, ça a parti un jeudi soir la semaine dernière où est-ce que je me disais, Caroline, là, moi, mon pouvoir là-dedans, c'est quoi? C'est quoi je peux faire? Au bout de la ligne, là, moi, je suis un peu impuissant. Moi, je suis comme tout le monde, hein. Au final, je suis un électeur qui choisit le gouvernement, qui choisit les gens qui sont en place, mais c'est pas moi qui décide des coupures. Et puis, mon pouvoir là-dedans est très, très limité. Puis, dans une conversation Messenger, j'ai lancé un petit peu au hasard à mes collègues. Coudon, c'est notre député quand même, M. Drainville. On est sur la rive sud, là. Le centre administratif, il est sur le territoire du député de Lévis. Puis ça donne que c'est notre ministre de l'Éducation. Fait que le lendemain, je me suis dit, bon, ben regarde, on va rédiger. Je me suis mis avec quelques collègues, on a rédigé une pétition. Puis là, on est rendu à près de 770 environ, là. Dernière fois que j'ai vérifié. Et ce ne sont que des membres du personnel du centre des services qui, à titre personnel, je tiens à le préciser parce que on s'est pas concerté au niveau syndical, c'est pas le patron qui m'a envoyé en mission, c'est vraiment à titre personnel que tout le monde a signé dans les 700 quelques. Puis, je vous dirais, 700 quelques, là, pour le commun des mortels d'une pétition, c'est vous allez dire, il y en a une autre, là, ils sont près de 25 000 à avoir signé, 50 000, je sais pas combien ils sont rendus, mais là, on est très, très ciblés, là. j'ai pas accès aux mêmes ressources non plus, c'est pas sur le site de l'Assemblée nationale, donc on part avec mon réseau personnel qui s'est élargi après ça au fur et à mesure que la pétition s'est promenée. Fait qu'on essaie de faire pression, puis je tiens à faire attention au mot « moyen de pression » parce que légalement parlant, on est très, très limité, les enseignants, au niveau des moyens de pression, même quand on est en temps de négociation, de convention, là, il y a toutes sortes de moyens qu'on n'a pas le droit de faire, là, exemple de pas remettre des notes, des trucs du genre, on est très, très limité, donc là, les moyens qu'on peut prendre, ben, on a entendu nos différentes centrales syndicales avec les parents, avec les directions, avec l'ensemble du reste de la société civile qui commence à s'organiser des marches et des trucs du genre. Fait que j'ose croire qu'à l'automne, la mobilisation va continuer parce qu'on n'est pas dupes, hein? On n'est pas né de la dernière pluie, là. Quand un gouvernement veut annoncer quelque chose de plate, il fait ça un vendredi à 5 heures, hein? Le vendredi à 5 heures, les médias, après, hein, ils font pas des grosses nouvelles avec ça. Ils savent très bien que c'est la fin de semaine. Ben, nous autres, ils nous annonçaient ça. C'est quoi, c'est le 15 ou le 16 de juin? 15 ou 16 de juin, puis nous autres, on doit se mobiliser quand le... La majorité d'entre nous s'en allons en vacances à peu près une semaine et demie plus tard. Fait que là, on voit qu'il y a un beau mouvement citoyen qui s'est organisé, puis il va falloir que ça se poursuive à l'automne. Donc, concrètement, à l'automne, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense pas qu'on ait décoléré à ce moment-là.
Là, il y a un manque à gagner de près $1 milliard qui plane sur le réseau scolaire. Puis quand on a jasé de ça avec François Legault, on dirait qu'il a été piqué au vif. Puis il mentionne que la Coalition Avenir Québec a augmenté les budgets en éducation de 58% depuis 6 ans. Il dit qu'il n'y a jamais un gouvernement qui a été proche de ce genre d'augmentation-là. C'est 7% d'augmentation en moyenne par année. Il mentionne que c'est ésotérique, là, un peu... Ce que les gens dans le milieu de l'éducation font actuellement en se plaignant, ça va se terminer comment, Jimmy? Comment le gouvernement pourrait dire, finalement, on pensait couper, on coupera plus, là. Faut quand même aller chercher 1 milliard, là.
Ben, justement, ce qui est ésotérique, c'est la guerre de chiffres, hein? Parce que ces gouvernements-là, quand ils sont dans l'opposition, c'est les premiers à venir avec nous pour nous dire « Ah, on devrait investir davantage en éducation ». On a des entrevues de M. Legault en 2018, c'est facilement accessible sur Internet, où est-ce qu'il dit qu'une dépense en éducation, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Puis il dit là, la même chose, le même discours qu'on tient ensemble ce midi, où est-ce qu'il dit « on peut pas couper aux élèves, c'est la dernière place qu'on doit couper ». Ben là, comment qu'on peut sortir d'une crise comme celle-là? C'est dur de remettre la pâte à dents dans le tube, mais c'est ben, pas nous autres qui l'avons sorti. Hein, c'est à lui de s'arranger au final avec la décision douteuse, parce que effectivement, c'est vrai, faut le dire, là. C'est vrai que les budgets en éducation ont augmenté dans les dernières années, mais est-ce que les besoins en éducation ont augmenté aussi dans les dernières années? Puis est-ce que les augmentations ont été faites à la hauteur des besoins? On peut bien dire d'un côté, ah oui, on a mis des milliards de plus en infrastructure. Je vous inviterais à faire le tour des bâtiments des écoles, puis vous verriez que ça fait dur, là. Il y a des bâtiments qui sont vétustes, il y a des bâtiments qui ont besoin d'amour, là. Il y a des bâtiments qui sont surpeuplés. Fait que est-ce qu'on va se vanter de dire on a investi tant de milliards? Ben oui, on peut reconnaître que c'était nécessaire, mais est-ce que c'était suffisant? J'en doute fort.
À couper dans l'aide alimentaire, c'est juste hallucinant. C'est les moins bien nantis de notre société. Puis ces enfants-là ont le droit de grandir et d'aller à l'école le ventre plein. Je vois qu'on va couper aussi pour ce qui est des postes d'éducatrice spécialisée, des postes d'orthophoniste, des postes de psychologue, Jimmy. Des enfants qui filent pas, ben on va juste leur dire, regarde, lâche pas, ça va peut-être aller mieux l'année prochaine.
Puis non seulement on coupe dans ces postes-là, qu'on a déjà de la misère à recruter. Moi, c'est ça que je comprends mal, là. On a de la misère à recruter des gens. Monsieur Drainville fait souvent là, la manchette en disant, quand il rencontre des gens, « Parlez donc de l'école de manière positive. » Ben là, je veux bien, là, mais moi, je veux pas inventer, dire « il fait gros soleil quand il tombe à verse, là. Hein? » On n'invente pas les bonnes nouvelles, on doit constater. Puis vous avez raison, c'est les moins bien nantis qui vont devoir, que ce soit par leur portefeuille ou parce qu'ils n'auront pas comme service payé. Puis on peut parler des adultes tant qu'on voudra, puis des choix qu'ils font, mais nos adolescents ou nos jeunes enfants, ils ont pas choisi ces choses-là. Ils n'ont pas choisi les mauvaises décisions que les gouvernements ont prises par rapport à toutes les dépenses inimaginables qu'on peut voir, par rapport aux baisses d'impôts, par rapport à la taxe sur la... Peu importe, là. C'est apolitique, mais les enfants n'ont pas à payer pour ça. Puis si on veut voir une génération qui, dans 20 ans, puisse s'en sortir mieux que la précédente, ben je pense qu'il n'y a pas mille solutions, hein. C'est l'éducation. C'est la raison pour laquelle on est si enflammé. Puis les médias sociaux de profs, présentement, là, on s'est tous mis le petit logo, là, tous ensemble pour l'éducation. On est vraiment mobilisés, justement, parce que ça touche les plus nantis, parce que, au final, vous l'avez dit, là, les professionnels, l'aide alimentaire, le parascolaire, c'est pas les plus riches là, qui vont partir de ça. Les plus riches vont continuer à faire du basketball, comme je le disais tantôt. Mais c'est le plus jeune, celui qu'on essaie de garder à l'école, celui qu'on dit, garde, là, c'est vraiment pas le fun pour toi à l'école, mais garde un petit nanane, là, puis tu vas être capable de le prendre, justement, ton secondaire 5. Puis avec ton secondaire 5, ben, ça va t'ouvrir d'autres portes plus tard, là.
Jimmy Grenier, pour les membres du personnel du Centre de services scolaires des navigateurs qui voudraient justement signer ta pétition contre les coupures budgétaires du ministre Bernard Drainville, ils peuvent avoir accès à cette pétition à quel endroit?
Ah, ben là, moi, je l'ai publicisé à travers mon réseau. Donc, la façon la plus simple, c'est d'aller sur Facebook, de trouver mon nom, Jimmy Grenier. C'est une publication que j'ai laissée publique. Donc, les gens, évidemment, je demande seulement à des gens qui sont des employés du centre de service de venir signer. Donc, pas qu'on veut pas que les parents nous appuient. Par contre, il y a une autre pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui, elle, est grand public. Donc, l'idée est comme, c'est un double message. Nous, on veut dire au ministre Drainville, ben, ministre Drainville, vous nous représentez pas bien, là. C'est pas ce qu'on demande, nous, à l'éducation, dans la circonscription de Lévis. Donc, ça, c'est ma pétition. Puis, j'invite tout le monde, là, le grand public, là, à aller démontrer sur le site de l'Assemblée nationale, ben, avec Google, on trouve ça relativement facilement, là, pétition pour, contre les coupures, quelque chose du genre. Et, plus gros ce chiffre-là, ben, peut-être que plus grande sera la réflexion de M. Legault quand viendra le temps de faire son remaniement.
Jimmy Grenier, comme tu le sais, on a un petit nouveau à la station Boulevard 102.1. C'est Mathias, ton ancien étudiant. Il était comment quand il était étudiant dans ta classe de secondaire 4?
Ah, il était pas mal tranquille. Je ne sais pas s'il est bien tranquille avec vous, mais moi, je me souviens de quelqu'un qui était plutôt réservé, mais qui était quand même très performant en histoire.
Oui, performant!
Ben, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que oui.
Je réussissais bien.
Ah oui,
je réussissais bien.
C'est un plaisir de jaser de Jimmy Grenier. Puis ça ne te fait rien. Je pense qu'on va te rappeler pour ce type de dossier-là. Tu t'exprimes super bien. Tu as une solide expérience avec nos jeunes. C'est le fun de t'entendre. Puis lâchez pas.
Ben, ça fait plaisir.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir de répondre à vos questions en temps et lieu.
Au revoir. Bye-bye. Jimmy Grenier, professeur d'histoire à l'école Pointe-Lévis, qui a parti une pétition contre les coupures budgétaires du ministre Drainville, signée par, jusqu'à maintenant, quoi, 770 membres du personnel du Centre de services scolaires des navigateurs. C'est un milliard là, qui reste à casquer pour l'éducation. Puis on coupe à des places qui n'ont juste pas de bon sens. Moi, quand j'ai vu aide alimentaire, quel point on est cave pour cesser de remplir le ventre des enfants qui sont pas capables de déjeuner sur le sens du monde dans le système scolaire. Tu sais, quand on parle de panier de service, là, un filet social, là, ben ça, je veux dire, c'est la dernière place où tu coupes. Tu sais, le fameux berlingot de lait ou la fameuse pomme, exemple, que tu donnes à l'enfant, qui est probablement le seul déjeuner qu'il va avoir, à mes yeux, à moi, il est primordial.
Il est nécessaire.
Puis je l'ai constaté. Moi, je viens d'un milieu qui n'était pas super aisé. Là. Je vous l'ai souvent mentionné. Quand j'arrivais à l'école, il y avait des gens qui étaient encore plus pauvres que moi, qui, eux autres, n'avaient pas déjeuné, puis qui avaient besoin de ce fruit-là ou de ce berlingot de lait-là, parce que sinon, ils n'allaient pas se rendre à 3 heures l'après-midi. Puis c'était la pause du matin. Là.
Non, je sais, puis... Avec tout ça qui se passe, ça serait pour moi vraiment étonnant que dans son remaniement ministériel, François Legault décide de garder Bernard Drainville ministre de l'Éducation. Ça fait tellement couler d'encre que je pense qu'il ne va pas avoir le choix de dire « on va donner un autre ministère à Bernard ». Peut-être le transport, peut-être qu'il va bouger vraiment les cartes. On ne sait pas, on a hâte de voir.
C'est le courant qui ne passe pas avec Bernard Drainville. Visiblement, il a fait un mauvais choix. Là. Il était persuadé qu'il allait être un excellent politicien là, avec la Coalition Avenir Québec. Ça ne fonctionne pas. Pourtant, pour les gens qui l'ont connu personnellement, c'est une très bonne personne. Des gens qui ont été collègues avec, c'est une très bonne personne aussi. Mais comme ministre, on dirait qu'il y a de la misère à créer des ponts avec les associations, avec les syndicats. Quand il s'exprime dans les médias, il a tout le temps de l'air hyper arrogant. C'est parce qu'il s'agit de nos enfants. Là. Prends deux tasses de lait avant de nous en parler. Là.
Ben oui, puis on se rappelle de sa fameuse réponse là, qu'il avait donnée aux enseignants, à la FAE, en fait, qui avait demandé sa démission. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un syndicat qui a privé nos enfants d'école pendant 5 semaines de grève et qui utilise l'argent de ses membres pour contester la loi sur la laïcité. Fait que le ministre Drainville qui est particulièrement arrogant. Et d'ailleurs, on s'en va du côté sport. Là,
yes! Ça bouge chez mon Canadien de Montréal. T'es-tu un Canadien, toi?
Oui.
T'es un Canadien aussi. Donc, pour tous les fans du Canadien, je peux vous dire qu'on va avoir de l'aide à la défensive.
Et Noah Dobson, échangé au Canadien de Montréal, selon plusieurs sources. Là, ça commence à sortir. Il signerait une extension, donc un contrat de 8 ans, 9,5 millions pour Noah Dobson, défenseur droitier. Tout un défenseur, là, vraiment, Noah Dobson.
Autour de 25 ans?
25 ans, oui. Bon, cette année, il a un peu ralenti. 39 points en 71 matchs. Mais l'année d'avant, 70 points en 79 matchs. 25 ans, c'est tout un espoir. On ne sait pas encore pour l'instant ce que Montréal a donné. Mais s'il signe à 8 ans, 9,5 millions, avec la masse qui augmente, c'est un bon contrat.
On surveille ça pour vous dans les prochaines secondes, les prochaines minutes. Pour l'instant, vous êtes sur les ondes de Boulevard. On vous pousse un peu de musique dans les oreilles. Montez le son. Blink-182, First Date sur Boulevard.